Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, l'expert.
Et notre expert ce matin, c'est Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. On va parler de la principale, du principal poste dans les dépenses des ménages, c'est celui du logement. Or, on n'en parle pas quand on parle des salaires, on parle du plafonnement des prix de l'énergie. Or, le logement, c'est la principale dépense des Français.
Oui, tout à fait. Bonjour. Tout d'abord, il faut savoir que quand on regarde la première préoccupation des Français, c'est le logement. C'est le pouvoir d'achat. Le logement, par contre, n'apparaît qu'à la 15e position. Donc, on peut se dire,
même les Français ne l'ont pas conscience.
Qu'il n'y a pas de décorrélation, il y a circulé, rien à voir. Et peut-être que cette position relative a influencé l'absence de propositions qu'il y a pu avoir liées à ce domaine-là pendant la campagne présidentielle. Alors, quand on regarde vraiment dans le détail, si on veut agir sur le pouvoir d'achat des ménages, au-delà de différents chèques qu'on nous promet dans les jours à venir, qui agiraient à la marge et qui ne seraient pas ciblés, c'est vraiment le logement qui constitue le principal point d'amélioration du pouvoir d'achat des ménages.
Quelle part de dépenses de ménage.
Là-dessus, il y a deux chiffres à retenir. Premièrement, le taux d'effort, donc c'est-à-dire la part de votre budget que vous allouez en moyenne à votre logement, est environ de 26% si on compte que le loyer ou le remboursement de votre prêt. Il passe à 35% si on ajoute tous les frais annexes qui sont notamment liés à l'énergie et qui sont en plus en cours d'augmentation. Si on regarde par contre du côté des dépenses contraintes, donc c'est ce que l'INSEE définit comme les dépenses préengagées des contrats de court terme sur lesquels il n'est pas possible de sortir, on est à 70% du budget non pilotable des ménages. 70%. Ah oui. Quel que soit le niveau de revenu d'ailleurs, du premier décile au dernier décile, la part est incroyablement flat, c'est toujours 70%.
Et du coup, quels sont les moyens d'action sur ce poste de dépenses pour les ménages?
Alors, premièrement, ce qu'il faut faire déjà, c'est essayer de remettre le logement social à l'accession, on va dire, par rapport aux ménages les plus précaires. Aujourd'hui, il y a plus d'1,3 million de ménages considérés comme précaires qui sont exclus des logements sociaux parce que justement, il y a un temps d'attente beaucoup trop élevé, une demande trop forte. De l'autre côté, le manque de rotation dans le logement social fait que vous avez aujourd'hui plus de 150 ménages qui y vivent, qui gagnent plus de 60 000 euros par an et qui, du coup, quelque part, on pourrait avoir les moyens de se loger dans le privé. Ensuite, il y a trois leviers. On dit il faut construire. Oui, mais construire pas n'importe où. Si vous construisez 300 logements en plein centre de Montluçon alors que vous n'avez aucune demande, vous alimentez les 3 millions de logements vacants déjà existants. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est densifier les centres-villes, la demande dans les centres-villes. On a aujourd'hui dans les villes moyennes et grandes des logements qui ne sont pas assez grands. Il faudrait construire 2 à 3 étages supplémentaires. Deuxièmement, réhabiliter les différentes friches industrielles en périphérie, justement, de ces grandes villes pour pouvoir, justement, créer une nouvelle offre de logement. Troisièmement, délocaliser une partie de l'activité dans les territoires où justement aujourd'hui on a des logements vacants et qui pour l'instant n'ont pas de tension sur le marché du logement. L'État a son rôle à jouer par exemple en délocalisant certains de ses services et directions dans ces territoires-là. Les entreprises sont en train de le faire, etc. Alors vous allez me dire, ça prend énormément de temps.
C'est ça.
Il faut agir tout de suite. Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on connaît ces solutions-là et qu'on nous dit que ça prend longtemps. Pour faire ce genre de projet-là, il faut à peu près 3 ou 4 ans. Il y a 3 ou 4 ans, ce problème avait déjà été soulevé pendant la crise des Gilets jaunes. On nous a dit, on préfère un chèque tout de suite. Le problème des politiques de court terme, c'est qu'on préfère le chèque aux politiques de long terme.
Stéphane Pedrazzi, il y a quand même dans le discours politique quelques mesures de court terme sur les loyers et le plafonnement, par exemple, non ?
En tout cas, Bercy y réfléchit, parce qu'effectivement, ça permettrait de réfléchir peut-être à un nouveau mode de calcul de l'IRL, l'indice de référence des loyers, qui repose essentiellement sur l'inflation. Un point, moi, qui me semble intéressant, on touche toujours au loyer quand on veut aider une certaine catégorie de population. Vous connaissez cette phrase de l'économiste suédois Assar Lindbeck, qui disait « Le contrôle des loyers, c'est le moyen le plus efficace pour détruire une ville avec les bombardements. »
Oui, parce qu'évidemment, ça va freiner, si on plafonne, ou si on contrôle les loyers, ça va freiner les investissements, et donc ce dont vous appeliez de vos voeux.
Les investissements et puis les mises sur le marché, parce qu'aujourd'hui vous avez des conditions qui sont de plus en plus compliquées pour la plupart des bailleurs. Dans une ville comme Paris par exemple, où vous avez une alternative touristique, bon, moins maintenant avec le Covid, mais on a observé vraiment un effet de substitution très fort jusqu'en 2019 entre justement des logements qui étaient proposés à la location dans le cadre d'un loyer plafonné et d'autres qui étaient proposés à des locations ponctuelles sur des plateformes de location saisonnière type Airbnb. Et donc dans ces cas-là, effectivement, il y a un basculement du marché qui se fait, le bailleur étant quelqu'un de rationnel qui aussi a besoin de de rembourser son prêt, hein, et qui du coup a fait un investissement, il fait pas la générosité, c'est pas un généreux bienfaiteur, il a du coup besoin de pouvoir rentrer dans ses frais, donc du coup le plafond de les loyers va à l'encontre de ça.
C'est ce que disent les propriétaires, hein. Eux aussi sont soumis à l'inflation, eux aussi sont victimes de l'inflation, puis en plus ils doivent faire face à la hausse de la taxe foncière.
Merci Erwan Tison et Stéphane Predatri. Ben, on saura normalement dans quelques temps, très vite, ce que fera le ministre du Logement, puisqu'il sera désigné cet après-midi comme l'ensemble du gouvernement d'Elisabeth Borne.